L'éruption des vacances, nous avions vu la question de. Nous avions abordé la théologie. Nous avions dit que la théologie avait une place extrêmement importante dans le protestantisme, beaucoup trop grande d'ailleurs, place beaucoup trop grande et démesurée dans la mesure où la théologie n'est finalement pas quelque chose que l'on trouve dans la Bible en fait, n'est-ce pas ? Science de Dieu. Et nous étions arrêtés sur la question de l'autorité. Nous avions vu que c'était un des points faibles du protestantisme, que la question d'autorité, et que finalement l'absence d'autorité, qui résulte aussi du fait qu'il y a un affaiblissement de l'autorité de la parole de Dieu aujourd'hui dans le protestantisme moderne, a pour corollaire la doctrine du sacerdoce universel, qui aboutit en fait à une espèce de disparition de tous les ministères, et surtout les ministères d'autorité. Bien que nous avons vu ces choses-là, je n'y reviens pas. Maintenant, nous allons aborder l'étude de la théologie proprement dite, et nous diviserons cette étude en deux grandes parties. D'abord, un survol rapide de la théologie en général, les différentes catégories et les différentes parties qui la composent. Et puis ensuite, nous reviendrons dans une deuxième partie sur les principaux courants théologiques. Enfin, les courants théologiques modernes en tout cas, ceux qu'on rencontre aujourd'hui. Donc, d'abord la théologie. Un survol rapide de l'objet de la théologie, des divisions, des sciences théologiques. D'abord, une première question se pose justement, la théologie, science de Dieu, est-elle réellement une science ? En fait, nous disons il y a un instant, la théologie n'est pas, dans son essence, une démarche biblique. Et notamment, il est tout à fait intéressant de noter que dans le judaïsme, la notion de théologie est absente. Il est absolument absurde de parler d'un théologien juif. Ça n'existe pas. Le mot théologien est une notion chrétienne et chrétienne occidentale, essentiellement. En fait, qu'est-ce que la théologie ? La démarche théologique est finalement une démarche philosophique au départ qui dépasse, si vous voulez, le cadre philosophique de la métaphysique pure qu'on trouve dans toutes les philosophies pour en quelque sorte se récupérer sur la révélation biblique. Donc nous avons ici un état d'esprit qui n'est pas l'état d'esprit de la Bible, parce que la Bible part de l'idée que Dieu ne se conçoit pas par l'intelligence. On ne peut pas connaître Dieu par l'intelligence de l'homme. Les choses de Dieu sont une folie pour l'homme, parce que c'est spirituellement qu'on en juge, dirait l'apôtre Paul, et que le seul moyen pour l'homme de connaître Dieu, c'est de recevoir de lui une révélation, ou d'entrer dans sa révélation. Par conséquent, partir d'une démarche rationnelle sur Dieu, pour essayer d'aboutir dans une systématisation, eh bien, en fait, c'est réduire la révélation à ce qu'elle n'est pas. Et bien des problèmes du christianisme moderne, en général, et du protestantisme en particulier, viennent justement de l'importance démesurée qu'a la théologie dans nos réflexions. Deuxièmement, la théologie est une démarche qui est influencée par le monde occidental, le monde hellénistique, grec en particulier, dans la mesure où les Grecs sont ceux qui ont posé les fondements de la philosophie, et qui aboutit finalement à dénaturer la parole de Dieu et à occidentaliser la foi. Je crois que ça, c'est aussi le deuxième grand reproche que l'on peut faire à la théologie, cette occidentalisation de la foi. D'autant que la théologie échangeante. Je crois que si l'on veut faire une histoire de la théologie, on se rendra compte combien, n'est-ce pas, de théologies au pluriel sont élaborées, je dirais, à chaque époque. Et notre époque, dans laquelle il y a de nombreux changements, voit l'éclosion de toutes sortes de théologies, un véritable foisonnement de théologies souvent divergentes, dont les plus célèbres ces temps-ci sont sans conteste les fameuses théologies de la libération qui sont au centre de la controverse actuellement dans l'Église catholique. Par conséquent, nous ne sommes pas sur un terrain sûr. Et ceci n'est pourtant pas pour nous étonner si l'on se souvient que la théologie a pour base la philosophie. Or, précisément, la philosophie est une discipline qui est sujette à toutes les variations de l'évolution, justement, de la pensée des hommes, en fonction de l'évolution de la société, en fonction de l'évolution des moyens de connaissance, des moyens scientifiques en particulier. Si bien que chaque théologie, je dirais, est le reflet de la culture de son époque. Et la théologie, on pourrait dire, c'est une grille de lecture de la Bible qui est dépendante des, on dirait aujourd'hui, des outils d'interprétation de cette même époque, de ce même temps. Par conséquent, dès qu'une nouvelle grille de lecture apparaît, nous aurons affaire à une nouvelle théologie. Troisième généralité qu'il faut évoquer quand on parle de la théologie, c'est que la théologie, c'est essentiellement un langage. Et plus exactement, un langage de bois, c'est-à-dire un langage pour initier. Ce sont des constructions intellectuelles, et purement intellectuelles bien souvent, qui sont bâties sur toute une espèce de formulation. Par exemple, cet après-midi, nous travaillons avec Yvon Charles et Pierre Sanderson sur la question du baptême du Saint-Esprit, que la Fédération protestante veut rationaliser. Il veut que cette notion soit exprimée théologiquement. Alors, ils ont demandé à un certain nombre de différents courants qui sont engagés dans le mouvement charismatique d'exprimer théologiquement la réalité du baptême du Saint-Esprit, c'est-à-dire dire ce que la Bible dit d'une manière très simple, le dire d'une manière extrêmement complexe. Quand on se trouve au milieu de théologiens, c'est tout à fait intéressant, vous avez l'impression d'être sur une autre planète. Vous avez l'impression que ces gens parlent un langage que le commun des mortels n'est pas capable d'entendre, et il faut être initié à ce langage, il n'y a pas de problème. On vous parlera de kérigme, on vous parlera de puissance salvifique, on vous parlera de toutes sortes de mots qui sont longs de 10 km, et plus c'est compliqué, n'est-ce pas, plus personne, moins on est capable d'y comprendre, plus c'est bien, quoi, en quelque sorte. Et finalement, on voit, n'est-ce pas, au milieu de ces théologiens, n'est-ce pas, une certaine condescendance qu'on retrouvait déjà dans la Bible, de la part des pharisiens vis-à-vis du petit peuple, les disciples en particulier, ces gens qui n'avaient pas étudié, ce Jésus qui était un simple charpentier de Nazareth, qui n'avait pas eu le privilège d'être avec les rabbins les plus célèbres. Et puis, finalement, cette réflexion qu'on trouve dans l'évangile de Jean, ce peuple, n'est-ce pas, ce peuple qui ne connaît pas la loi, ce sont des maudits. Et je me souviens, il y a quelques années de cela, dans une de ces grandes rencontres, un de ces théologiens, n'est-ce pas, avec condescendance, après avoir fait un exposé, qu'elle était sans doute à peu près seule à avoir compris quelque chose, je ne sais pas d'ailleurs si c'était compris lui-même, peu importe, le problème n'était pas là, enfin, j'ai caricaturé un peu quand même, je me moque un peu, mais disait avec condescendance, parlant de ces petits, de ces humbles, qu'étaient maintenant les gitans qui rentraient dans la Fédération protestante, n'est-ce pas, et combien la Fédération protestante devait se pencher sur ces petits, sur ces humbles. On voyait toute la suffisance, n'est-ce pas, toute la condescendance dans l'attitude de cet homme, n'est-ce pas, qui, bien entendu, était bien au-dessus de ces choses-là. Seulement, le problème, c'est qu'on peut facilement se laisser impressionner par ces gens-là qui emploient des mots extraordinaires, et puis finalement, quand on gratte en dessous, on se rend compte que c'est creux, il n'y a rien. C'est vide complètement. Je viens de lire justement un livre de Max Alain Chevalier qui est doyen de la faculté de théologie de Strasbourg, donc un des premiers théologiens de France, disons, qui vient d'écrire un livre justement sur le baptême du Saint-Esprit, puisque c'est la question qui est à l'ordre du jour actuellement. Alors, quand j'ai commencé à lire sur ce livre les premières pages, bon, ça me semblait un peu long, avoir quelques longueurs, et puis au fait, plus j'arrivais, plus je tournais les pages, et plus je restais sur ma faim, je suis arrivé jusqu'à la dernière page, et je suis toujours sur ma faim. J'ai l'impression que ce brave homme a dépensé des trésors d'érudition, finalement, pour dire quoi ? Ben rien. C'est vite, c'est creux. Alors je crois que quand on se trouve au milieu de théologiens, il ne faut pas se laisser impressionner. Il faut essayer de décrypter leur langage, parce qu'ils emploient des mots extrêmement complexes pour dire des choses que nous connaissons tous très bien. Voilà. Alors il faut avoir un minimum de vocabulaire, c'est surtout ça la chose essentielle. Et puis, quand on s'est un petit peu initié au vocabulaire particulier qu'est le leur, eh bien, on se rend compte que finalement, ce sont des gens qui n'ont pas grand-chose à dire, et puis qui n'ont pas non plus beaucoup de base. Parce que vraiment, la théologie est quelque chose d'absolument desséchant, absolument tueur de vie. La vie de l'esprit, n'est-ce pas, est absolument tuée par ces choses-là, et aussi, il faut bien le dire, en fait, contre foi. Et ce n'est pas étonnant que un pasteur qui, il y a un certain nombre d'années, avait entrepris toute une action contre l'immoralité dans son pays, le pays scandinave, n'hésitez pas à dire cette parole extrêmement forte et étonnante, ce sont les théologiens qui sont les principaux responsables de la situation actuelle. Et il est certain qu'il y avait beaucoup de vrai dans cette réflexion-là. Alors, il y a aussi une autre conséquence de cette application de la langue de bois, si j'ose dire, c'est que les théologiens, du fait qu'ils sont essentiellement des rationalistes et parce qu'ils ont une démarche qui est au départ une démarche rationaliste, on peut le savoir chez les catholiques aussi, mais c'est tout à fait intéressant de voir que les catholiques sont absolument éblouis par le brio des théologiens réformés. Ils font des complexes, quand on est dans des rencontres œcuméniques de théologiens, par exemple à Chantilly ou ailleurs, c'est tout à fait étonnant de voir, n'est-ce pas, les théologiens catholiques faire des complexes devant les théologiens protestants. Et puis se mettre à leur remorque et surenchérir, n'est-ce pas, quand les autres disent des bêtises, eux ils en rajoutent. Alors, pour pas donner l'impression d'être en reste. Alors c'est un rationalisme sec et desséchant qui conduit également à, finalement, mettre en doute les affirmations essentielles de la parole de Dieu. Réduire la parole de Dieu au mythe. Et nous verrons par exemple comment dans la théologie moderne, notamment dans la théologie de Gutmann, le mythe a une place importante. Mythe que les miracles de Jésus, mythe que la question de la résurrection, du tombeau vide, hallucination de disciples un petit peu faibles de l'esprit, voilà en gros ce qu'on trouve, et j'en passe, c'est des meilleurs. Alors, il est évident que quand on arrive à ce stade-là, eh bien, ces pauvres gens n'ont plus beaucoup de choses à dire, ils n'ont plus une grande parole d'espérance à donner à ceux qui les interrogent. Alors, nous pouvons dire d'une manière générale que la théologie nous apparaît comme quelque chose de négatif. Néanmoins, étant donné la place qu'elle a dans le protestantisme, il faut connaître un minimum de choses, ne serait-ce encore une fois que le langage. Parce que quand on est amené à se trouver au milieu de ces gens-là, il faut aussi leur montrer qu'on n'est pas en reste, parce qu'ils sont très vite méprisants. Si vous paraissez ignorer, n'est-ce pas, ce qu'il fait bon connaître dans les cercles théologiques, alors vous êtes un de ces maudits qui ne connaît pas la loi, et par conséquent, tout ce que vous pourrez dire ne sera sans importance. Donc, il faut connaître quelques petites choses. Maintenant, il faut savoir que la réforme a beaucoup poussé cet aspect parce que la réforme étant basée sur l'étude de la parole de Dieu, c'est tout à fait valable, a poussé comme le peuple juif l'a fait l'étude, l'importance de l'étude. Les académies, par exemple les facultés de théologie, sont des académies. Le pasteur, c'est un universitaire et il a une formation universitaire, en principe, dans les livres réformés en tout cas. Alors, on parle aujourd'hui de la théologie comme une science, de la même façon qu'il y a la science géographique, physique, chimique, etc. Bon, ben, vous avez la théologie, qui est un ensemble de sciences qui utilise un certain nombre d'outils, comme on utilise des outils, etc. Bientôt, on en arrivera à réduire aussi la théologie à un ensemble de formules mathématiques. Je crois que quand on en sera arrivé à ce stade-là, eh bien, ce sera les théologiens seront en extase. Alors, donc, il faut parler de science théologique, science biblique. Alors, la première discipline sur laquelle se penche la théologie, c'est la question d'ancien, enfin c'est la Bible d'abord, les sciences de la Bible, et tout d'abord l'Ancien Testament. C'est tout à fait intéressant de voir que sur ces questions-là, les théologiens n'ont aucune réponse à donner, donc des questions à poser. C'est magnifique, ils posent des questions mais ils ne répondent jamais aux questions. Alors finalement, on arrive à une espèce d'étiolage de la foi dans un certain nombre de questions qui sont sans réponse. Je crois qu'on avait déjà parlé de la question des sources du Pentateuque. Ce n'est pas la peine d'y revenir, on y reviendra peut-être dans la reprise des principaux courants théologiques. Je rappelle simplement ce dont il s'agit. D'après un théologien allemand du siècle dernier, Wellhausen, le Pentateuque, la Torah, les cinq livres de Moïse, si vous préférez, sont un assemblage hétéroclite de cinq documents qui ont existé à différentes époques d'une manière indépendante et qu'au moment de l'exil, un compilateur inconnu, un pieux faussaire, parce que c'est tous des pieux faussaires, tous ces gens-là, s'est amusé à rassembler comme on ferait d'un puzzle. Et il a découpé avec une paire de ciseaux et un rouleau de scotch, il a découpé ce qu'il y avait dans les différents manuscrits, puis il les a collés bout à bout comme ça, c'est ainsi que vous auriez, à en croire ces messieurs, deux récits de la création, le chapitre 1er et le chapitre 2, qui se contredisent, vous avez plusieurs récits du déluge, vous avez plusieurs passages de la loi, etc. etc. Bon, je rappelle les quatre principaux documents qui, d'après Wellhausen, formeraient les sources du Pentateuque. Vous avez le document Eloïste, ainsi nommé parce que Dieu serait désigné sous le nom d'Élohim, et qui daterait du Xe siècle dans le royaume du Nord, le royaume d'Israël, le document Yaviste, qui lui daterait du 7e siècle avant Jésus-Christ et qui aurait été écrit dans le royaume du Sud, le royaume de Juda, est ainsi nommé parce que Dieu est désigné sous le nom de Yahvé. Le document deutéronomiste qui date de la fin de l'époque royale, donc l'époque de Josias, qui serait une pieuse fraude rédigée par Josias pour promouvoir sa réforme centralisée autour de Jérusalem et ainsi lui asseoir son pouvoir politique. Vous voyez comme c'est beau tout ça. Et puis enfin, vous avez le document sacerdotal qui serait encore une fraude pieuse, cette fois-ci des prêtres du retour de l'exil qui, comme ils étaient assez mal payés au retour de l'exil, ont demandé qu'on leur paye les dîmes, etc. Alors ils ont convoqué tout un document pour que les gens leur payent les dîmes. C'est un peu caricatural ce que je dis là, mais c'est exactement le fond du problème. Alors, tout part évidemment sur la notion des fraudes. Les hommes de la Bible sont des fraudeurs. Ils sont des fraudeurs, pourquoi? Eh bien parce que ces messieurs qui vivent dans un siècle de filous et de fraudeurs, et où il y a même des gens qui sont des professionnels du mensonge, n'imaginent pas que les hommes de la Bible pourraient être autrement que ce qu'ils sont eux-mêmes. Ils projettent sur les hommes de la Bible leur propre pensée, parce que si eux, ils avaient vécu à l'époque des hommes de la Bible, c'est exactement ce qu'ils auraient fait eux. Alors ils s'imaginent que les hommes de la Bible étaient comme ça. Ça ne revient pas un seul instant à l'idée que les hommes de la Bible pouvaient être des gens honnêtes et des gens qui agissaient avec probité, comme d'ailleurs c'est très très facile à démontrer. Je prends juste un ou deux exemples comme cela. Vous vous souvenez, dans le texte de la Genèse, qui donc aurait été écrit d'après ces messieurs, donc au 10e ou 7e siècle avant Jésus-Christ, donc à une époque, l'époque des prophètes, des grands prophètes, qui luttait contre l'idolâtrie, une époque où le danger de l'idolâtrie était très grand dans le royaume de Juda, eh bien, nous lisons dans le livre de la Genèse, par exemple, que comment Rachel avait volé les téraphimes de son père. Vous vous souvenez de cette histoire? Elle s'était assise dessus quand Laban était venu enquêter, etc. Bon, les téraphimes, c'est des idoles. La Bible relate le fait. Mais la Bible ne condamne pas l'attitude de Rachel. Nulle part vous ne trouvez un seul mot comme quoi Rachel a commis un acte abominable en volant des idoles. Alors nous ne prenons pas pour des imbéciles. Alors ces faussaires, n'est-ce pas, qui auraient écrit ce texte à cette époque-là, à un moment où tous les grands prophètes tenaient contre l'idolâtrie, auraient laissé passer quelque chose d'aussi gros, sans ajouter, puisque ça leur était facile, puisqu'ils n'étaient pas scrupuleux, un petit entrefilé, et le Seigneur parla à Jacob en disant « Rachel », etc. C'était évident, c'est ce que ces messieurs auraient fait. Ben, il se trouve que là, ça n'a pas été fait. Pourquoi ? C'est bien tout simplement parce que ces hommes de la Bible étaient des gens beaucoup plus scrupuleux que ne sont les théologiens modernes, et parce qu'ils ne se sont pas permis justement de toucher à quelque chose qui pourtant les choquait, sûrement que ça les choquait, mais ils l'ont laissé. Preuve qu'ils avaient le respect pour ce texte, et pour un texte qui finalement était beaucoup plus ancien, parce que c'était eux qui l'avaient écrit à leur époque, ils se seraient certainement permis d'ajouter une condamnation. Donc nous avons ici à faire un texte beaucoup plus ancien. Bon, c'est un détail parmi d'autres. On pourrait trouver des dizaines d'exemples semblables qui montrent, n'est-ce pas, avec quel respect les textes de l'Ancien Testament ont été recueillis par le peuple de Dieu, qui justement ne s'est pas permis de les triturer, de les tripatouiller comme veulent nous faire croire les théologiens modernes, pour les faire cadrer dans leur système. N'est-ce pas ? Enfin bref, on reviendra là-dessus si vous le voulez. Bien, nous avons maintenant, alors là, une nouvelle école, à côté de l'école de Wellhausen. Alors, il faut dire que la théorie de Wellhausen, c'est quelque chose qui est accepté comme le fait que la Terre est ronde. Si vous osez dire que le Pentateuque n'est pas composé de ces quatre documents-là, on vous prend pour un doux rêveur, pour un pauvre imbécile, un petit peu demeuré, quoi, hein. Même si, par ailleurs, les savants de l'Université de Jérusalem, comme Yreskel Kaufmann, ou comme Umberto Casuto, par exemple, ou même Martin Buber, ont démontré, n'est-ce pas, la stupidité de l'histoire de Wellhausen, montrant que c'était simplement un échafaudage intellectuel occidental. N'est-ce pas ? Mais ça fait rien, c'est entré dans les mentalités. Et tout théologien qui se respecte vous parlera de toutes ces choses-là, vous parlera aussi des deux Ésaïe, par exemple, du 3, même 3 Ésaïe, des deux Osée, de 2, 3 Joël, etc. Bon, enfin bref, il y a toute une dissection de la parole de Dieu qui est faite comme ça, on découpe en rondelles de saucisson la Bible, et puis finalement on la vide de sa substance. Mais on a fait mieux depuis. Ça, c'était simplement qu'un début. Et au début de notre siècle, est apparu ce qu'on appelle l'école des formes. En allemand, forme déchichtée, parce que, comme le disait avec un certain humour les étudiants de théologie, ce qui se conçoit bien s'énonce en allemand, et les mots pour le dire viennent gutturalement. Les Allemands sont évidemment les grands maîtres de la théologie. La théologie est un sport national en Allemagne. Et. Tout ça est très 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 marqué de l'empreinte allemande et de... Qu'est-ce qu'il y a ? Pas compris ? Alors, l'école de Dibelius Bultmann, Formgeschichte, ça s'appelle. Histoire des formes. C'est-à-dire que l'histoire des formes était une réaction, d'une certaine manière, contre l'école libérale du 19e siècle. L'école libérale qui... nier, si vous voulez, qui était un a priori rationaliste, partant du fait, si vous voulez, que tout ce qui est surnaturel est impossible. Donc tout ce qui est surnaturel est fiction. On n'a jamais vu un mort ressuscité, donc la résurrection n'existe pas, et la résurrection n'a pas eu lieu. Bon, alors comment rendre compte du fait que les évangiles nous parlent de la résurrection ? Eh bien, tout simplement, je vous disais tout à l'heure, parce que eh bien, il y a eu un certain nombre de phénomènes qui ont fait croire qu'il y a eu résurrection, mais bien entendu, dans la réalité, il n'y a pas eu résurrection. Alors, quels étaient les phénomènes qui ont fait croire à la résurrection ? D'abord, Jésus lui-même, n'est-ce pas ? Il n'était pas tout à fait mort quand on a descendu de la croix, qui contredit le fait que les Romains ont bien pris soin de s'assurer qu'il était mort en allant jusqu'à lui percer le cœur d'un coup de lance pour être bien sûr. Mais il n'était pas tout à fait mort, et puis quand il s'est trouvé dans la fraîcheur du tombeau, il est revenu à lui, puis il est sorti comme ça, puis les disciples en masse sont arrivés, il est allé mourir un peu plus loin, et puis quand les disciples sont arrivés dans le tombeau était vide, ils ont cru qu'il était ressuscité. Ou bien alors, c'est les disciples, comme le disait la tradition qui est reportée par Matthieu, qui sont venus voler le corps, qui ne pouvaient pas se résoudre à ce que Jésus soit mort, et puis qui ont fait répandre le bruit que Jésus était ressuscité. Ou bien Marie-Madeleine, qui aimait tellement Jésus qu'elle ne pouvait pas s'imaginer qu'il était mort, et qu'elle a vu le jardinier, et elle a cru que c'était Jésus ressuscité, et c'est elle qui a colporté la nouvelle, etc. Bon, voilà le genre de sornette que racontaient les théologiens libéraux du siècle dernier. Bon, c'était un peu gros, tellement gros, qu'au début du siècle, quand même, on a été obligé de se rendre compte que tout ça, c'était pas sérieux. Et donc, l'école de Libébus et Bultmann, ensuite, est partie du même principe, d'abord en disant, bon, c'est vrai, la résurrection, de toute façon, ça n'existe pas. On n'a jamais vu le mort ressuscité, donc automatiquement, il y a quelque chose. Mais, plutôt que de rendre compte de la foi dans la résurrection comme de quelque chose qui a été suggéré par des événements qui n'avaient rien à voir avec l'événement supposé de la résurrection, alors là, les choses se sont passées autrement, n'est-ce pas? C'est en fait, il faut étudier l'histoire de la forme littéraire du texte. Il faut partir non pas du fait supposé qui nous est rapporté par le texte, mais de la forme littéraire du texte. Et ainsi, qu'est-ce que nous nous rendons compte? Que ces textes ne sont pas des textes d'histoire, mais sont des textes de doctrine. En fait, ils reflètent non pas les événements tels qu'ils se sont accomplis, mais tel que l'Église l'a prêché, ou tel que le peuple d'Israël, s'il s'agit de l'Ancien Testament, l'a prêché. Donc, nous avons ici non pas le reflet d'un événement, mais de la foi de l'Église. Bon, comment l'Église est arrivée à cette foi? Eh bien, c'est là justement que la sagacité de ces messieurs se donne libre cours, et on explique, n'est-ce pas, que il y a eu différentes écoles, il y a l'école de Jean, il y a l'école de Luc, il y a l'école de Paul, etc., l'école de Jérusalem, d'Antioche, qui avait une manière un petit peu différente de rendre compte de la foi, et que finalement, la seule chose qu'on peut savoir, c'est qu'il y a eu un certain Jésus qui a été crucifié. Maintenant, qu'est-ce que ce Jésus a enseigné? On n'en sait rien. Ce qui en ressort, c'est qu'il y a un certain nombre de gens qui ont cru qu'il était le Messie, un certain nombre de gens qui, pour des raisons obscures, ont cru qu'il était ressuscité, et puis qui ont créé une Église, dans laquelle, petit à petit, avec le temps, par une tradition orale, s'est mis en place tout un ensemble, tout un corpus de doctrines, qui a ensuite été mis par écrit au travers d'événements fictifs. Mais tout les évangiles, les récits des évangiles, sont une fiction de A jusqu'à Z. Nous ne pouvons pas, en lisant les évangiles, nous dit Bultmann, connaître ce qu'a été véritablement l'homme Jésus. Nous ne pouvons pas savoir quelle a été sa vie, nous ne pouvons pas savoir ce qu'il a cru et ce qu'il a prêché. Tout ce que nous pouvons savoir, c'est ce que l'Église ensuite a dit de lui, et par conséquent, en dernier ressort, c'est pas sérieux, quoi. C'est pas sérieux, les évangiles ne sont pas crédibles. Voilà, en gros, si vous voulez, à quoi aboutit l'école de Bultmann. Nous retrouvons également un autre grand nom de la théologie du siècle dernier, c'est Schweitzer. Albert Schweitzer, qui est plus connu pour son œuvre humanitaire à l'hôpital de Lambaréné au Gabon, mais qui, à côté de cette œuvre tout à fait positive, était aussi un théologien, et qui a continué à faire de la théologie pendant qu'il était en Afrique. Et Schweitzer, qui était un théologien libéral par ailleurs, est tout de même un homme qui, lui, a redécouvert toute une dimension de l'Évangile qui était totalement abandonnée, occultée depuis des siècles, c'est la dimension de l'eschatologie, c'est-à-dire justement que l'Évangile était totalement placé dans la perspective de l'avènement du royaume de Dieu et du retour de Jésus. Et Schweitzer a beaucoup écrit là-dessus, et il a représenté un courant théologique assez important qui aujourd'hui est pris en compte dans la plupart des milieux théologiques, mais alors dans une réinterprétation qui aboutit finalement aujourd'hui aussi à toutes ces théologies de la libération qui font tellement couler d'encre et salive dans l'Église catholique en particulier. Alors, comment la théologie protestante lit-elle l'Ancien Testament? Eh bien, elle le lit comme l'histoire du salut. Dieu est celui qui intervient dans l'histoire pour y manifester son salut. Au travers d'un cycle qui est celui de l'alliance, et la théologie protestante insiste sur cette notion de des alliances, l'ancienne alliance avec le peuple d'Israël et la nouvelle alliance avec l'Église en Jésus-Christ. Des alliances qui sont basées également sur des promesses, sur le cycle promesse-accomplissement. Bon, ça c'est tout à fait biblique, là je crois qu'on n'a rien à redire à cela. C'est tout à fait valable et tout à fait positif comme approche de l'Ancien Testament. Et dans cette optique-là, tu ne suis pas... Oui, il faut m'arrêter autrement. Hein. Dans cette optique-là, le Nouveau Testament est considéré comme l'accomplissement des promesses faites dans l'Ancien Testament. Et ceci nous paraît tout à fait évident à nous, bien sûr, mais dans une perspective catholique telle que c'était par exemple au XVIe siècle, c'était beaucoup moins évident. Même aujourd'hui, dans le milieu catholique, c'est une chose qui apparaît comme allant de soi, mais qu'il a fallu redécouvrir finalement, et que c'est un mérite que l'on doit reconnaître aux réformateurs d'avoir remis en évidence. Maintenant, l'Ancien Testament n'est pas tellement un objet d'étude de la théologie protestante, mais la théologie protestante s'attache beaucoup plus au Nouveau Testament. Le Nouveau Testament est le champ essentiel de son étude. Alors, à plusieurs niveaux. Tout d'abord, au niveau des évangiles. Au XIXe siècle, et au début du XXe siècle, en fait, premier tiers du XXe siècle, sous l'impulsion justement des mouvements rationalistes du XVIIIe siècle, du XIXe siècle par la suite, plusieurs chercheurs non chrétiens et ensuite un certain nombre de chercheurs chrétiens eux-mêmes avaient été amenés à mettre en doute l'historicité de Jésus. Est-ce qu'il y a eu véritablement un homme nommé Jésus? Et on en doutait. Et il a fallu attendre le premier tiers de notre siècle pour qu'un savant, un théologien protestant français nommé Frédéric Gogel, publie un ouvrage qui mettait le point final à cette controverse. Et depuis Gogel, plus personne, ni dans les milieux chrétiens, ni dans les milieux extra-chrétiens, ne met maintenant en doute l'historicité de Jésus, ne met en doute le fait qu'il y ait eu un homme nommé Jésus. Maintenant, ce qu'a été cet homme, c'est autre chose. Mais en tout cas, il y a eu, et ça maintenant plus aucun historien sérieux ne mettrait en doute, le fait qu'il y ait eu un homme qui se soit nommé Jésus. Par contre, comme je l'ai dit tout à l'heure, toute la théologie protestante moderne est dominée sur la question de Jésus, de la vie de Jésus, par l'école de Bultmann, la Formgeschichte, l'histoire des formes. À savoir que les évangiles sont, encore une fois, le produit de la prédication de l'Église, ce qu'on appelle en langage théologique, en langue de bois, le kérigme, du mot grec kérigma, qui signifie proclamation. Et ce kérigme, cette proclamation de l'Évangile, n'était le fruit que de la réflexion de l'Église sur l'événement Jésus. Jésus, pour Bultmann, était un homme qui a quand même marqué son temps, qui a été un homme exceptionnel, et qui a tellement frappé ses disciples que ses disciples, après sa mort, n'ont cessé de réfléchir sur ce qu'il a été et ont tiré des conclusions du domaine de la foi, c'est-à-dire finalement, pour Bultmann, du domaine de l'irréel. Et c'est ce qui a donné l'Évangile, l'Évangile qui emploie, nous dit Bultmann, un langage mythique. Et là, nous sommes en plein, justement, dans ce qui est l'approche théologique moderne de l'Évangile, c'est-à-dire le mythe. Qu'est-ce que c'est que le mythe? Le mythe, c'est une manière primitive de s'exprimer qui part d'une cosmologie ou d'une cosmogonie primitive de type prométhéen, c'est-à-dire telle que se représentaient les Grecs le monde, c'est-à-dire une terre qui était plate, qui avait un disque plat soutenu par des colonnes de chaque côté avec une voûte solide au-dessus, et dans au-dessous duquel il y avait un abîme, et au-dessus il y avait le ciel dans lequel il y avait des fenêtres, etc., qu'on ouvrait. Et par conséquent, eh bien, Dieu était considéré comme le ciel, celui qui était au-dessus de cette voûte solide, et puis le domaine de la mort, le Sheol, le séjour des morts, lui était situé en dessous du disque. N'est-ce pas? Alors, c'est comme ça qu'on peut parler d'un Dieu qui est dans le ciel, de Jésus qui monte vers son Père qui est dans le ciel, etc. Bon, alors là, nous avons affaire à, nous dit Bultmann, à un langage qui est tout à fait mythique. Et dans le domaine du mythe, tout est possible. Dans le domaine du mythe, comme dans les mythes grecs, dans les mythes de la mythologie, par exemple, gréco-romaine, bon, il y avait des miracles qui se passaient, il y avait des choses merveilleuses qui se produisaient, même les morts pouvaient ressusciter. Bon, là, nous sommes en plein mythe, nous dit Bultmann. Pour les gens un petit peu simples de cette époque-là, n'est-ce pas, qui croyaient au merveilleux, qui n'avaient pas l'approche rationaliste qui est la nôtre, parce qu'ils vivaient dans un monde qui était pré-scientifique, bon, ça pouvait passer, ces choses-là. Et même les disciples avaient besoin d'ajouter une pincée de ce merveilleux-là, parce qu'autrement, leur message n'aurait pas été communiqué. Les gens étaient superstitieux, les gens étaient crédules dans cette époque-là. Par conséquent, le message chrétien n'aurait pas percé s'il n'avait pas été auréolé de toute cette atmosphère de merveilleux et de surnaturel. Alors, le fait qu'il y avait des miracles, dans la Bible, par exemple, dans le Nouveau Testament, servait à accréditer la parole, non pas de Jésus, parce que Jésus n'a bien entendu jamais prononcé ces paroles-là, mais la parole des disciples, que les disciples mettaient sur le compte de Jésus. Et c'est comme ça que l'Évangile a pu avoir du succès. Maintenant, nous dit Bultmann, nous ne vivons plus dans ce monde-là. Nous vivons dans un monde qui a évolué, un monde qui est devenu adulte. Parce que ces gens-là, c'était des enfants, des naïfs, ou des gens qui... Ces petits dont nous parlions tout à l'heure, n'est-ce pas? Mais nous, l'homme moderne maintenant, l'homme du XXe siècle, est l'homme qui est devenu adulte, l'homme qui envoie des fusées dans la Lune, l'homme qui a atteint maintenant le stade de l'homo scientificus, et par conséquent, n'a plus besoin de ces fables, de ces choses-là. Et au contraire, pour l'homme moderne, nous dit Bultmann, le merveilleux, que l'on trouve dans les évangiles, bien loin d'être un support de la foi, devient un obstacle. Parce que nous, aujourd'hui, qui vivons dans ce monde scientifique, nous ne pouvons plus croire qu'un paralytique peut marcher comme ça juste à la parole de Jésus. Nous ne pouvons plus croire qu'un mort peut ressusciter. Nous ne pouvons plus croire que Jésus pouvait marcher sur la mer. N'est-ce pas? Alors, bien loin d'être une aide, le merveilleux qui se trouve dans la Bible, le mythe qui se trouve dans la Bible, devient un obstacle. Et par conséquent, aujourd'hui, l'Église, nous dit Bultmann, se trouve confrontée avec le problème de communiquer l'Évangile aux hommes de son temps. Par conséquent, pour en arriver là, que faut-il faire? Il faut démythifier l'Évangile. Il faut présenter un Évangile adulte pour un homme adulte. Et Bultmann entreprend toute une démarche de démythisation, de la Bible, qui permet d'arriver, de cerner d'abord le Jésus historique, autant que faire se peut. Alors là évidemment, c'est pas facile. Qui était véritablement Jésus? Que connaissons-nous du Jésus historique après l'entreprise de démythification de Bultmann? Eh bien, pas grand-chose, hein. Franchement. Qu'est-ce que Jésus a réellement dit? Pas grand-chose. Il y a ce qu'on appelle en langage théologique quelques logia, c'est-à-dire quelques paroles de Jésus qui sont exactes pour le reste. Quand on réduit l'évangile de Jésus selon Bultmann, vous savez, ça fait... Il y en a 2-3 pages de l'évangile tout au plus, hein. C'est maigre. Tout le reste, c'est de la fiction, tout le reste, c'est du mythe. Alors, Bultmann, par exemple, va aussi rejeter non seulement, bien entendu, tout ce qui est les miracles, la naissance virginale, n'en parlons pas, les miracles de guérison de Jésus, bien entendu, il n'en est pas question, la résurrection, ça c'est pareil. Mais surtout, Bultmann s'en prend à la notion du sacrifice expiatoire de Jésus. Alors, parler du sacrifice expiatoire de Jésus, c'est faire du christianisme une religion de sang, une véritable boucherie, dit-il, et par conséquent, pour l'homme moderne, c'est un véritable scandale. On ne peut pas du tout prêcher quelque chose pareil, c'est absolument abominable de prêcher une expiation en Jésus. Par conséquent, il faut réinterpréter tout ce que l'Évangile dit pourtant clairement à ce sujet-là. Ça, Bultmann est obligé de reconnaître que la doctrine de l'expiation par le sang de Jésus est quelque chose que l'on trouve explicitement dans la Bible. Alors, il faut démythifier et il faut réinterpréter. Alors, pour cela, il faut faire le sacrifice de l'histoire au profit de l'historicité. Alors là, évidemment, il y a des mots allemands, historie et Geschichte en allemand, je ne connais pas l'allemand, ça c'est quelqu'un qui connaît un peu l'allemand ici. Enfin, il y a deux mots pour dire histoire en allemand. Alors, Bultmann fait une distinction subtile entre ces deux mots. Il y a quelque chose qui serait historisch et puis l'autre geschichtlich, je ne sais pas quoi. Enfin, bon. C'est-à-dire que. Comment ? Ben, c'est-à-dire que l'Évangile n'est pas historique au sens où on l'entend. C'est ça que ça veut dire. Mais par contre, il y a une autre, en quelque sorte, une autre manière de comprendre une vérité historique, mais sans qu'elle soit vraie, quoi. C'est ça, en fond, c'est de dire que c'est vrai tout en étant faux, quoi. C'est ça, un petit peu, c'est la quadrature du cercle. Et de dire que, finalement, l'Évangile, c'est une sorte de... même pas de morale, même pas d'éthique, mais c'est une parole d'une espérance après la mort. Oui, il y a peut-être quelque chose après la mort, on ne sait pas pourquoi. Enfin, Jésus est ressuscité en esprit, quoi. Dans le fond, son corps est resté mort, bien entendu, il est resté dans la tombe, ou en tout cas volé par les disciples, tout ce qu'on voudra. Mais enfin, son esprit, peut-être que oui, effectivement, là, il y a quelque chose, et que dans le fond, quand on croit en lui, eh bien. Il y a un petit quelque chose qui se passe, c'est pas très clair, c'est pas très précis. Enfin, on arrive finalement à une foi qui est tout à fait désincarnée, qui n'a plus aucun appui, qui est quelque chose de tout à fait vague, de tout à fait métaphysique. C'est vraiment, alors pour un homme adulte, mais au sens de l'homme moderne, l'homme sans espérance, quoi, finalement, c'est cela. Et finalement, ça a été une véritable catastrophe que la théorie de Bultmann, parce que ça a été la perte de la foi pour des milliers de personnes. Milliers de personnes dans les églises. Et finalement, les disciples de Bultmann, évidemment, Bultmann est mort il y a déjà un certain nombre d'années, mais ses disciples ont poursuivi sur sa lancée. Et alors, on est arrivé avec l'évêque Robinson, qui est un évêque anglais, qui a écrit une vingtaine d'années, un bouquin qui a fait grand bruit en son temps, s'appelait Honest to God, qui a été traduit en français sous le titre assez malheureux, à mon avis, de Dieu sans Dieu, où finalement Robinson concluait que l'homme moderne, non seulement ne pouvait plus croire au mythe, etc., etc., mais qu'il ne pouvait même plus croire au mythe de Dieu, que Dieu aussi était un mythe, et que finalement la seule manière d'être véritablement honnête avec Dieu, d'où le nom de Honest to God donné à son bouquin, c'était de le nier, quoi. Et c'est ce qu'on appelle la théologie de la mort de Dieu. Dieu est mort, l'homme moderne a tué Dieu grâce à la science, c'est-à-dire qu'il a réduit à néant le mythe de Dieu. Dieu n'est qu'un mythe, Dieu n'existe pas. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Vous allez me dire, mais en quoi ce type-là se dit encore chrétien? Qu'est-ce que ce type-là fait en tant que théologien? Alors, il y a une récupération magnifique, parce que vous savez, il faut bien voir que derrière ces choses-là, il y a des considérations aussi très pratiques. Vous comprenez, ce gars-là, il avait déjà un certain âge quand il a écrit son bouquin, il avait passé toute sa vie dans l'Église, il vivait de l'Église, et certainement qu'à ce moment-là, il était arrivé à cette conclusion qu'il avait perdu la foi. Eh bien, c'est triste, c'est malheureux pour lui, bien entendu, mais enfin, il aurait dû être honnête, comme il le dit, honnête envers Dieu, et puis quitter l'Église, et puis dire qu'il était devenu athée, qu'il avait perdu la foi. Bon, ben là, on aurait déploré cela, bien entendu, mais... respecter sa démarche. Voilà au moins un gars qui est logique. Il a perdu la foi, mais il a fait comme s'il n'avait pas perdu. Et ce qui est terrible, c'est que ces gens-là restent dans l'Église pour des raisons économiques, financières, parce qu'ils ne veulent pas, comme disait l'homme de la parabole que Jésus met en scène dans une de ses paraboles, celle de l'économie fidèle, que ferais-je quand mon maître va me mettre dehors, mendier, j'en aurais honte, travailler la terre, je ne le puis. Je crois que c'est exactement la même démarche chez ces gens-là. Ils n'ont pas envie de se reconvertir dans autre chose, alors ils restent dans l'Église. Et le pire, c'est qu'ils détruisent l'Église de l'intérieur. Ils font un travail abominable, un travail de sape, un travail diabolique. Alors, il a été à l'origine d'une théologie qu'on trouve très répandue aujourd'hui dans bien des milieux chrétiens. C'est une sorte de panthéisme, en quelque sorte. Le panthéisme, c'est une philosophie religieuse, si vous voulez, une métaphysique qu'on trouve chez les Grecs, et au terme de laquelle Dieu est dans toute chose. Toute chose est Dieu, c'est-à-dire que, par exemple, Dieu, c'est dans l'arbre qui est en face de vous, dans la fleur que vous avez cueillie, c'est dans le bloc de béton que vous avez construit, c'est Dieu. Bon. Alors, évidemment, les théologiens de la mort de Dieu ne vont pas jusque-là exactement quand même, mais en fait, si vous voulez, il y a quand même une assimilation de Dieu avec la nature. Et plus exactement, avec l'humanité. C'est en cela que ça rejoint quand même le panthéisme. Et on part d'un texte que l'on privilégie. Et ça, c'est la tarte à la crème, alors, de tous les théologiens modernes, c'est Matthieu 25. Vous savez, le fameux texte où Jésus dit « J'ai eu faim, vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire, etc. » Chaque fois que vous avez fait ces choses à l'un de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Par conséquent, qu'est-ce que ça veut dire, nous dit Robinson et tous ces gens-là? Tout n'est pas absolument faux dans cette doctrine. Jésus le dit effectivement dans Matthieu 25. Mais seulement, ce qui ici n'est qu'une image, dans ce sens que Jésus dit, eh bien, dans le fond, quand vous avez fait ces choses, un de ces petits, c'est comme si vous l'aviez fait à moi-même. Mais vous ne l'avez pas fait à moi-même. C'est comme si vous l'aviez fait à moi-même. Mais ces gens-là disent, vous l'avez fait à moi-même. C'est pas c'est comme si, c'est à moi que vous l'avez fait. Donc Dieu est là. Dieu est là dans l'autre. Et alors c'est toute la théologie de la rencontre qui ne fait que suivre, si vous voulez, toutes les tartes à la crème modernes qu'il y a sur le plan de la relation-communication aujourd'hui dans le monde. Et on retrouve ça dans l'Église, n'est-ce pas? Et le dialogue, la vertu du dialogue, de la rencontre. Et la rencontre, c'est essentiellement donc le petit, le méprisé, etc., etc. Et on voit qu'on débouche tout naturellement sur les théologies de la Révolution. C'est-à-dire que finalement, faire l'œuvre de Dieu, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est prêcher l'Évangile? Non, puisque Dieu n'existe pas. Est-ce que c'est prêcher le salut? Non, puisque de salut il n'y a pas. Si, le seul salut à espérer, c'est le salut terrestre. C'est-à-dire quoi? Alors là, on récupère l'eschatologie de Schweitzer, la notion du royaume de Dieu, pour dire, mais oui, le royaume de Dieu, bien sûr. L'humanité est en marche vers le royaume de Dieu, c'est-à-dire vers un monde idéal où il n'y aura plus de guerre, où tout le monde mangera sa faim, où, etc., etc. Et de toute façon, c'est en marche parce qu'il y a des forces dans l'histoire, et là on rejoint absolument les philosophies du 19e siècle, les philosophies positivistes, les philosophies du progrès, la philosophie d'Hegel, et on se rend compte de Marx, n'est-ce pas? Et donc, en tant que chrétien, qu'est-ce que c'est que le chrétien? Eh bien, c'est quelqu'un qui est à l'avant-garde, en quelque sorte, de ce combat pour la justice, pour l'établissement du royaume de Dieu sur la terre. Par conséquent, Dieu étant dans l'autre, étant dans le petit, dans le méprisé, etc., dans le pauvre, je dois aller vers ce pauvre pour le libérer. Et à ce moment-là, eh bien, j'accomplis l'œuvre de Dieu. C'est ça. Vivre l'Évangile, c'est ça. C'est uniquement cela. Alors, ça se réduit à quoi, l'Évangile? Ça se réduit à une dimension socio-économique, travailler pour la justice, pour la libération des hommes, y compris éventuellement, et c'est le problème des théologies de la Révolution, par la force militaire, par la force des armes, la violence, etc., etc. Et ceci aussi pour, comme les chrétiens sont quand même une petite minorité et que par eux seuls ils ne peuvent pas espérer transformer le monde, eh bien il faut qu'ils utilisent les instruments d'analyse scientifique qui leur permettent d'agir sur le monde, les moyens techniques qui lui permettent d'agir pour, sur le monde, d'où justement le recours à tout justement un ensemble de systèmes, de, plutôt une pensée technologique, disons. Et ensuite, on estime que dans ce domaine-là, la philosophie la plus scientifique d'action sur le monde, c'est le marxisme. Et il y a un débouché sur le marxisme. On utilise le marxisme dans ce qu'on appelle la praxis. Alors c'est encore un mot sacré, on n'emploie pas beaucoup en théologie. Ça vient d'un mot grec qui signifie l'action. Alors il y a le kérigme, la proclamation, il y a la praxis. C'est-à-dire l'évangile vécu dans la pratique. Hein. Je vais simplement dire la pratique, c'est une manière de se gargariser le mot aussi, comme on disait tout à l'heure. Et par conséquent, la praxis est essentiellement la praxis marxiste. Alors on utilise la grille de lecture marxiste, on utilise l'idée de la lutte des classes comme moteur de l'histoire, et là on rejoint absolument le marxisme, et il y a cette espèce de collusion, cette conjonction qu'il y a entre les marxistes et les chrétiens engagés, comme on dit, pour travailler dans le sens d'une révolution mondiale. Et c'est contre cela qu'avec raison, le pape vient de réagir, n'est-ce pas? Puisque, comme je disais tout à l'heure, les théologiens catholiques sont à la remorque des protestants dans ce domaine-là, dans le domaine de la théologie, et beaucoup d'entre eux ont adopté, justement, jusqu'à en rajouter même, les points de vue des théologiens protestants dans ce domaine-là. Alors, voilà, si vous voulez, le naufrage auquel nous assistons aujourd'hui dans le domaine de la théologie. On peut parler d'un véritable naufrage. Paul parlait de ceux qui avaient fait naufrage quant à la foi, et je crois qu'ici le mot n'est pas trop fort. Ces gens-là ont perdu la foi, ça je crois qu'il faut le dire clairement, mais loin d'en tirer les conséquences, et puis de dire, ben, puisque j'ai perdu la foi, je ne suis plus chrétien, j'en tire les conséquences, je m'en vais faire autre chose, au besoin je me reconvertis dans le marxisme ou dans la... en tant que révolutionnaire, etc. Non, il continue à rester, à demeurer dans l'Église pour la saper de l'intérieur. Et non seulement cela, mais pour en faire un instrument, justement, adapté à leur fin et à leur but. Et il n'est pas rare de voir, d'ailleurs, ces gens-là magouiller carrément pour prendre le pouvoir dans les instances de décision des Églises, notamment au sein du protestantisme. Alors ça, c'est extrêmement clair. C'était un peu en reflux ces dernières années, parce que quand même, ceux qui n'étaient pas dans cette voie-là avaient fini par voir clair et à réagir un petit peu. Mais dans les années 60, au début des années 70, la plupart des postes clés dans la Fédération protestante étaient aux mains de ces gens-là. Et par exemple, on en a su quelque chose dans la FEUF, c'était exactement le cas, c'était absolument cette théologie-là qui avait le dessus du pavé. Alors, où en sont ces théologies? Eh bien, on se rend compte qu'elles sont encore florissantes. Elles sont parfois un peu tempérées, un petit peu plus modérées, mais elles n'en restent pas moins sous-jacentes, comme quelque chose qui a apporté un sang nouveau, en quelque sorte, à la théologie, et dont on doit tenir compte maintenant, même un certain nombre de gens, même dans les milieux charismatiques, et je faisais allusion tout à l'heure à Max-Alain Chevalier, qui a écrit ce livre sur l'Esprit-Saint, eh bien, on sent qu'il y a une grille bultmannienne de lecture de l'Évangile, qui est sous-jacente à son ouvrage, de manière très 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 nette, n'est-ce pas? Alors, je crois qu'il y a un mal absolument considérable qui a été fait, et il y a un livre d'ailleurs qui a été écrit à ce sujet-là dans les milieux évangéliques, que je vous recommande particulièrement, qui s'appelle « Tempête sur la Bible ». Et je crois que le mot n'est pas trop fort. Ça a été une véritable tempête sur la Bible, ça a été une véritable dévastation qui a été la conséquence de cette théologie catastrophique de Bultmann et de ses disciples, n'est-ce pas ? Et qui, aujourd'hui, continue encore à faire sentir ses ravages et tout ce qu'il peut y avoir de négatif. Voilà. Est-ce que vous avez quelques questions à poser maintenant ? Il reste une dizaine de minutes. La libération de l'oppression politique, essentiellement, de l'oppression sociopolitique. Ben oui, puisque le salut, quand il est mort, est mort. Hein, le salut est uniquement terrestre. C'est un royaume terrestre uniquement. Et à ce moment-là, le christianisme ne devient qu'une espèce de force d'appoint de l'humanisme. Le christianisme de ces gens-là ne se réduit plus qu'à cela. une espèce de force d'appoint de l'humanisme, l'humanisme moderne, athée. Et il y en a carrément qui n'hésitent pas à parler d'un christianisme athée. Je suis un chrétien athée. On entend ça de temps en temps. Oui, je suis un chrétien athée, oui. Ah mais ça fait rage dans l'Église catholique actuellement, parce que quand même là, le pape se rend compte que c'est une destruction interne de l'Église. Quoi. C'est une destruction interne de l'Église, parce que c'est une négation de tout l'Évangile, c'est une négation de la foi. C'est un athéisme. En fait, c'est un athéisme marxisant. À partir du moment où tu nies la transcendance de Dieu, et où tu veux quand même poser une transcendance, automatiquement il reste plus que marxisme. C'est-à-dire que c'est la nature qui est Dieu, la matière qui est Dieu, c'est-à-dire qu'il y a dans la matière, dans la nature, une force dynamique qui conduit cette réalité, le monde, vers un but, et à ce moment-là, il ne reste plus que le marxisme. C'est exactement cette démarche-là, c'est ce que j'expliquais ça. Alors c'est pour ça que c'est pas très enthousiasmant, évidemment, de faire une étude comme nous l'avons faite ce soir, mais il faut savoir, parce que c'est à l'heure du jour aujourd'hui, tout le monde parle de ces histoires-là, de théologie de la libération, on est pour, on est contre, etc., sans peut savoir de quoi il tourne, d'ailleurs, très souvent, mais c'est ça. Oui, c'est l'homme qui est Dieu. Et c'est pour ça qu'on retrouve Matthieu 25. Dieu est dans l'autre, il est dans l'homme, il est dans celui que je rencontre, et plus particulièrement dans le pauvre. Alors, comme le fait remarquer Jacques Ellul très, très justement dans une critique qu'il fait de cette théologie de la libération, il dit que pendant des années, au XIXe siècle par exemple, on a complètement oublié la place du pauvre dans l'Évangile. Et puis, brusquement, au XXe siècle, après le marxisme, n'est-ce pas ? Tout le monde se met à parler du pauvre, et c'est le pauvre par-ci, et c'est le pauvre par-là, etc., tellement que ça en devient une véritable théologie du misérabilisme, pendant que d'ailleurs ces messieurs continuent à mener grand vie. D'ailleurs, ici, c'est un petit épisode tout à fait intéressant. C'est en 1967, je crois, il dit ça, que le doyen Roger Mel, je crois, c'est Roger Mel ou Jean Bosque, enfin, un théologien important, quand on parler de cette théologie du pauvre, etc., le pauvre par-ci, le pauvre par-là, alors il faudrait faire quelque chose pour les pauvres du tiers-monde, etc. Bon, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'occuper des pauvres du tiers-monde, vous comprenez bien, ce n'est pas du tout ce que je veux dire. Mais c'est cet accent, n'est-ce pas, cette idolâtrie du pauvre maintenant qui fait qu'il ne reste plus que ça, mais en parole, comme le montre cet exemple-là. Alors Jean Bosque ou Roger Mel avait dit, écoutez, puisque vous êtes interpellé par le problème de la pauvreté du tiers-monde, eh bien c'est très simple, vous n'avez qu'à partager. Il leur avait proposé quelque chose de pratique. Je ne sais pas si ce n'était pas donner une partie de leur salaire, un truc comme ça, pour une œuvre quelconque. Alors là, ça avait été la levée de bouclier général, tout le monde trouvait un bon prétexte pour ne pas donner. Mais j'ai vécu une expérience à la dernière assemblée générale du protestantisme qui allait exactement dans le même sens. C'était aussi dans une réunion de travail, en petit groupe, où il y avait des gitans qui étaient là, mon frère le plus sec. C'est pareil, il y avait des grandes envolées lyriques sur les pauvres, sur le chômage, sur le tiers-monde, ces gens qui meurent de faim, qui crèvent de faim, etc. Ouais, il faudrait qu'on fasse des appels au gouvernement pour que le gouvernement fasse quelque chose pour les pauvres, etc. Alors, il faut qu'on cherche des projets. Est-ce que vous avez des choses à nous proposer qu'on fasse pour les pauvres, etc. Alors, il y a le frère de côté qui lève la main et dit, écoutez, moi j'ai un projet. C'est, vous savez, où en Inde, là-bas, le problème, c'est souvent un problème d'irrigation. Eh bien, moi, j'ai un projet pour creuser 1000 puits. 1000 puits là-bas, ça permettrait d'irriguer tant d'hectares de terre et donc de nourrir tant de personnes là-bas, parmi les orphelins dont nous nous occupons. Alors, tout est prêt, les plans sont prêts et c'est l'argent qui manque. Alors il faut une somme de temps qui n'était pas une somme importante bien sûr, mais une somme qui n'était pas mirobolante non plus. Et écoutez, si vous êtes d'accord, vous pouvez faire un appel dans vos églises et puis consacrer ces sommes-là pour creuser les puits. Et puis là, vous avez fait quelque chose pour les gens du tiers-monde. Levez de bouclier général, mais c'est pas de ça qu'il s'agit, mais non, mais pensez-vous, non, il faut faire la révolution, c'est la lutte des classes, c'est tout ce qu'on voudra, mais aller donner son argent à soi pour aller creuser des puits en Inde, ça, pas question.
Vaut mieux acheter des ordres.
Ouais. Faire payer les gros capitalistes, et les gros capitalistes, c'est toujours les autres. C'est jamais soi. Un frère de Cossé qui était écœuré quand il est sorti de l'écœuré.
En fait, t'as pas parlé, qu'est-ce que ça fait?
Comment? Si, ils font de l'agitation politique, ça, ils sont assez doués pour ça, si.
C'est ce qu'ils veulent, c'est délivré.
Mais ils veulent réduire l'Église à ça. Pierre-Alexandre Lesson me disait quelque chose d'amusant. Vous savez qu'il a prêché à la radio il y a quelque temps. Et je ne sais pas si vous avez peut-être entendu écouter, c'est devant que j'étais en salle, je n'ai pas écouté. Et alors, il avait un texte imposé, c'est pas toujours très facile, c'était le texte de Matthieu 18, si ton frère a péché, etc., tu vas le reprendre, s'il ne veut pas t'écouter, ensuite qu'il soit pour toi comme un païen et comme un publicain. Il avait prêché sur ce texte-là, c'était pas extraordinaire, bon, enfin, il a prêché, parce qu'il a la parole de Dieu, quoi. Enfin, voilà, si dans l'église, il y a un homme qui pêche, etc., bon, ben, on l'avertit, puis s'il ne veut pas, etc., puis en fin de compte, il est excommunié, quoi. Alors, levé de bouclier général à la Fédération protestante, comment il a osé prêcher l'Inquisition, c'est terrible, c'est terrible. Et même un représentant de la Fédération protestante est venu me voir, il me dit, écoutez, c'est pas possible d'avoir prêché quelque chose comme ça. Parler du péché, comment, mais le péché, qu'est-ce que c'est le péché? Alors, moi je veux bien que vous prêchiez ce que vous avez péché, mais alors il faut changer le mot péché, vous remplacez ça par péché social. Alors là, ça passe très bien. Vous mettez péché social. Alors, d'ailleurs, je vous ai apporté ici un texte, vous voyez, ça a été quelqu'un qui a prêché sur ce même texte, vous pourrez comparer, vous verrez comment fallait prêcher, quoi. Alors, non seulement ça, mais quelques temps plus tard, dans l'église réformée de Rennes, ils avaient fait un culte moderne, animé par les jeunes, parce que maintenant on a même des cultes, ça s'anime, des cultes, et ça s'attend dans un infantilisme, un gagatisme absolument incroyable. Comme c'était à la Fédération protestante, ils avaient mis des cubes. Il y avait des cubes. Et alors, il fallait mettre sur chacun des cubes, de différentes couleurs, des gros cubes comme ça, quoi, hein, le nom d'un péché. Alors, il y avait mis péché social, etc. Puis il y en avait un qui avait mis militarisme. Puis il y avait là un général. Général de la commandant de la première région militaire, je ne sais pas quoi, un haut gradé qui était là, protestant. Ça ne lui a pas plu. C'est au milieu du cul. Il a donné des grands coups de pied dans le cul, il dit j'en ai marre d'être juste toute l'église, et puis il est sorti au placard.
C'est du bien. Ils sont des tests psychotechniques.
C'est animé ou pas?
Ah, pour être animé, c'était animé. C'est ça, il n'y a pas de lingot de putain. Mais c'est exactement le culte, le genre de culte qu'il y a eu à la Fédération protestante, en manière, sans mes général. Des cubes comme ça, moi j'aurais dû être dans un cube.
Et si je vous voyais le prêcher, je vais vous prêcher.
C'est bon?
Vous comme ça.
Il
n'y
a pas de cube,
vous voyez. Mais il n'y a pas de question, on nous explique, voilà, ça c'est. Alors, ça a commencé déjà à la dernière assemblée générale, je me souviens, c'était à la Grande Motte. Il y avait un gars qui, pendant qu'il prêchait, il y avait une diapositive qui passait. Alors, c'était prêché sur aussi le grain de blé qui est tombé en terre de mer, vous connaissez le texte. Alors, on voyait le grain de blé qui était projeté, il est tombé en terre, puis ensuite, je ne sais pas quoi, les trucs qui surgissaient. Et alors, c'était amusant parce que il a dit des choses intéressantes par ailleurs, ce brave monsieur. Mais dans les rapports qui en ont suivi, et ça a fait le tour de France et de Navarre, c'était les diapos. Alors, on y voyait, chacun y voyait des symboles, on avait qui voyait des croix, on avait qui. Enfin, comme disait Gilles, c'était un peu un test psychotechnique tout à fait le meilleur effet, l'imagination de chacun se donnait libre tour. Alors, on avait la tête de Jésus, on avait qui voyait. C'est absolument aberrant. C'est ça qui en est resté, c'est tout. Ah bah oui, c'est lui qui présidait le culte. Enfin, je pense pas que tu fasses ça ici. Mais... Comment ? Non, mais c'est triste parce que c'est vraiment le... C'est la boucle qui est bouclée, quoi. À ce niveau-là, c'est fini, quoi. C'est fini. Ou bien alors, il y a vraiment un réveil. Ou bien c'est l'église de l'Antichrist qu'on a fait ça se mettre en place. C'est exactement ça. L'église de l'Antichrist. Et c'est pourquoi finalement la coexistence au sein de la Fédération protestante n'est pas facile. Et c'est pourquoi au niveau des évangéliques, c'est extrêmement... Les évangéliques ne se rendent pas compte, ils arrivent là dans ce monde-là, et ils le découvrent, ils ne sont, pas... sont souvent pas armés pour ça. C'est pour ça qu'il faut connaître un peu ces choses. Ce n'est pas enthousiasmant. C'est... Et en même temps, il faut être extrêmement prudent parce que on peut pas fréquenter des gens sans être finalement influencé par eux. C'est pourquoi finalement que ce qu'on avait dit il y a 2 ans au sujet des temps d'Abraham, c'est une chose essentielle et fondamentale, rester sous nos temps, parce qu'autrement, qu'on le veuille ou non, on sera plus ou moins influencé. C'est pour ça qu'on avait rejeté les contacts au sein de la feutre en son temps. C'est pour ça que maintenant on rejette les contacts avec ici les jeunes réformés autant qu'ils puissent y en avoir. Parce qu'on ne veut pas qu'il y ait une mosquée qui se fasse.